bonjour à tous. Vous écoutez bien les Radio Libertaire 89.4, l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec la complicité de Flo Descailloux, qui est la technique et qui commence déjà à s'agiter sérieusement, et Laurent Garibian, notre lecteur qui lit en direct les livres dont nous vous parlons. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Natacha Henry pour deux livres, en fait. Et c'est une émission, je ne vous ai pas tout dit, c'est une émission consacrée à Rosa Bonheur. Voilà. Alors, pour deux livres, Rosa Bonheur, l'audacieuse de Natacha Henry, qui viennent paraître aux éditions Albin Michel en littérature Albin Michel jeunesse, et puis aussi un autre livre, Souvenirs de ma vie, donc de Rosa Bonheur et Anna Klumpke, aux éditions Phébus. Voilà, vous savez presque tout. Nous allons commencer cette discussion autour de Rosa Bonheur. Natacha Henry, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui.
quelle a été... Alors, vous avez vous-même, allons, il faut que je vous présente aux auditeurs. Vous êtes très impliquée dans la défense du droit des femmes, spécialisée dans la lutte contre les violences. En 1999, vous avez mis au point le concept de paternalisme lubrique, qui fera date. Et puis, vous êtes aussi, surtout, directrice de projet de l'Union européenne contre la violence faite aux femmes et aux filles en particulier, les violences conjugales et le harcèlement sexuel. Enfin bref, voilà, vous êtes quelqu'un d'engagé, on peut dire. Et aussi co-réalisatrice et productrice déléguée d'une série de 8 courts-métrages d'animation destinés aux victimes de violences conjugales. Alors bon, vous avez publié, vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous avez publié une quinzaine d'ouvrages. Je voudrais connaître un peu votre parcours d'écrivain, de femme, vers cette vie d'exception qui est la vie de Rosa Bonheur.
D'abord, je suis ravie d'être sur Radio Libertaire. C'est ici même, dans ce studio, que j'ai été invitée pour la première interview de ma vie, à l'époque de la conférence de Pékin sur les droits des femmes en 1995 avec Nelly Trumel. Et donc, c'est des souvenirs importants pour moi. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour parler maintenant de Rosa Bonheur. C'est vrai que je m'occupe de l'image des femmes depuis longtemps et que je fais à moitié des projets européens ou français d'ailleurs sur la prise en charge des victimes de violences conjugales ou harcèlement sexuel, et que l'autre moitié de ma vie, c'est d'écrire des livres sur des grands personnages historiques féminins dans un contexte féministe. J'insiste, oui, parce que c'est important, je crois, d'avoir un regard féministe sur Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, elle est née en 1822, donc c'est son bicentenaire cette année, et c'est une peintre animalière qui a fait date, car c'est la première femme artiste en France décorée de la Légion d'honneur pour avoir été une femme artiste. Et elle est connue par certaines et certains pour avoir fait des tableaux d'animaux, des grands mammifères. Hein, c'est pas des petits chatons, etc. Non. Ce sont des
fauves
bêtes importantes. Voilà, c'est ça. Et donc... moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que je connaissais Rosa Bonheur, comme toutes les féministes connaissent le nom de Rosa Bonheur, mais j'étais aux États-Unis il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, et puis je suis allée dans le Wyoming, et dans l'état du Wyoming, il y a le musée de Cody, qui est en fait un musée destiné à la mémoire de Buffalo Bill. Je le raconte parce que c'est un peu l'anecdote de comment je suis arrivée à Rosa Bonheur. Et donc, en fait, dans ce musée Buffalo Bill, qui est donc le créateur du Wild West Show, avec la représentation du Far West, etc., ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'était un grand type de divertissement quand même et de spectacle. Il y a dans ce musée, là-bas en Amérique, un tableau qui représente Buffalo Bill sur son cheval, et c'est signé Rosa Bonheur. Et là, j'ai eu un choc, en fait. Que faisait cette espèce d'aventurier américain avec ses armes et qui tuait des bisons, et la peintre française féministe? Et c'est là que je me suis passionnée pour cette histoire.
Voilà. Ouais,
et c'est comme ça que je suis rentrée en Rosa Bonheur pour plus jamais en sortir.
Bon, tous les chemins mènent à Rosa Bonheur. Mmh. C'est vrai, alors bon, Souvenir de ma vie de Rosa Bonheur et Anna Klumpke, bon, voilà, qui vient de paraître chez Phébus. Alors bon, moi j'ai été un peu surprise parce qu'en fait, Souvenir de ma vie, et ça se lit au présent. C'est-à-dire, c'est un livre qui est presque en 3 parties. Première partie, c'est un peu l'histoire, la rencontre de la narratrice qui va être un peu la dernière compagne de Rosa Bonheur, donc sa seconde compagne de fin de vie, on va dire, et aussi son élève, c'est une accompagnatrice qui est beaucoup plus jeune qu'elle d'ailleurs, qui est peintre, je pense, hein, qui est peintre aussi.
Oui, portraitiste. Oui.
Portraitiste, américaine.
Américaine.
Donc, elle raconte sa rencontre avec Rosa Bonheur, son admiration, ses hésitations, etc. Voilà. Deuxième partie, on rentre vraiment, c'est Rosa Bonheur qui se met à parler via le Anna témoignage d'Anna. Et Anna, il faut dire qu'elle prend le relais en fait, de la première compagne qui s'appelait Nathalie Mikas et qui, je pense, était censée peut-être écrire ce livre. Et troisième partie, donc après, c'est toutes les. Voilà, c'est la fin de vie de Rosa Bonheur, le testament de Rosa Bonheur, enfin, tout. Voilà. Alors, c'est en trois temps. Et c'est assez. Moi, ce qui m'a. Je dirais que ça se lit comme un roman, finalement. Aussi, ça se lit comme un roman du 19e siècle. C'est vraiment. On se retrouve dans un roman, brusquement, c'est l'histoire de quelqu'un qui frappe par admiration, qui va écrire à cette femme, qui s'appelle Rosa Bonheur, qui est mondialement connue à l'époque. Hein. Et je voudrais savoir quelle était un peu, puisque c'est vous, Natacha Henry, qui vous êtes occupée de cette nouvelle édition, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle édition que nous pouvons découvrir aujourd'hui? Du souvenir de Rosa Bonheur.
Oui, effectivement, vous avez raison de rappeler le contexte historique. Donc, à la fin de sa vie, Rosa Bonheur reçoit la visite d'Anna Klumke, qui est une portraitiste américaine et qui voudrait faire son portrait. Donc, elle s'installe chez Rosa Bonheur, qui finit par lui dire « Est-ce que vous pourriez aussi écrire mon autobiographie ?» C'était le projet que j'avais avec ma compagne Nathalie Mikas, qui est décédée en 1889. Maintenant que vous êtes là, je voudrais vraiment que quelqu'un comme vous, de confiance, qui me comprenne, et surtout pas un homme, puisse exprimer mes souvenirs. Et elles vont s'asseoir là, Rosa Bonheur va lui raconter sa vie, parce que Anna arrive très tard dans la vie de Rosa Bonheur, donc elle n'était pas là avant. Et donc Rosa Bonheur va lui confier tous ses secrets, l'histoire de ses parents, l'histoire de comment elle est devenue peintre, l'histoire de Nathalie Mikas, les voyages, comment on peint des animaux, les expositions, etc. Et puis Rosa Bonheur décède en 1898, et donc cette œuvre n'est pas achevée à ce moment-là. Alors Anna Klumke va se livrer à un travail de recherche, fidèle à sa parole donnée à Rosa Bonheur, d'écrire ses mémoires, son autobiographie, disons. Elle va prendre tous les courriers qui traînent à la maison, elle va interroger des amis, des gens qui ont connu Rosa Bonheur. Et ça donne ce livre qui paraît en 1908, donc elle a travaillé longtemps, 10 ans, Anna Klumke, pour faire cet objet. C'est un livre qui sort en 1908 et qui s'appelle « Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre », signé Anna Klumke. Il nous a semblé extrêmement important l'année du bicentenaire de rendre ce livre disponible au grand public dans toutes les librairies. Et c'est pour ça que les éditions Phébus m'ont confié cette édition, car il y avait besoin d'une préface pour contextualiser, et puis des notes, parce que finalement Rosa Bonheur parle de gens qu'on a oubliés maintenant au XXIe siècle. Donc c'était important quand même de dire qui était qui, de faire des explications, un petit peu, pas trop, un petit peu. Voilà, donc ça donne souvenir de ma vie. Pourquoi c'est co-signé Rosa Bonheur et Anna Klumke? La première édition n'était que signée d'Anna Klumke, celle-ci elle est co-signée parce que légalement, aujourd'hui, en fait, elles sont considérées comme co-auteurs, les deux femmes. Voilà, et moi, je suis donc chargée de l'édition de la préface. Les éditions Phébus ont mis un beau cahier photo à l'intérieur pour qu'on voit les tableaux, donc c'est vraiment formidable. Et c'est un drôle d'objet, parce que finalement, quand Rosa Bonheur dit à Anna Klumke, vous allez raconter ma vie, après ça, Anna Klumke a donc un choix à faire. Est-ce que je parle tout entièrement à la première personne, moi, Rosa Bonheur, peintre? Est-ce que je m'efface devant mon personnage qui m'a confié cette mission? Comment je fais, etc. Mais finalement, elle dit toute seule à ce moment-là, Anna Klumke, puisque Rosa Bonheur n'est plus là, et elle va se mettre en scène aussi et raconter leur rencontre. Et c'est un objet, vraiment, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à elle. C'est un objet littéraire unique en son genre, de cette double voix, de la biographe qui dit voilà comment j'ai fait cette autobiographie de Rosa Bonheur. C'est un texte colossal, extraordinaire. Et en plus, comme les archives de Rosa Bonheur ne sont pas encore vraiment disponibles, eh bien, c'est la source absolue que nous ayons sur Rosa Bonheur.
Et en plus, oui, on voit vraiment ses hésitations, ce qu'on ressent, qu'on rentre dans un univers, parce que c'est un univers en soi, Rosa Bonheur. C'est un monument. D'abord, il y a le lieu où elle habite, on va en parler, le château de Bie, c'est là son atelier, où elle a construit plusieurs ateliers, plus elle vit avec des ménageries, des animaux, des fauves, enfin, c'est un monument. Mais elle-même, j'ai l'impression que c'est elle qui choisit ses accompagnateurs, accompagnatrices, les gens qui l'entourent. Elle dit, vous publierez vos impressions sur moi, vous les joindrez au récit de ma vie, tout de suite. Elle lui dit quand même ça, elle a quand même une idée derrière la tête, puisque cette femme lui rappelle étrangement, plusieurs reprises dans le récit, sa mère. Donc sa mère avait, à qui elle était très attachée. Je dirais que ces deux livres, puis il y a votre livre aussi, Natacha Henry, Rosa Bonheur, l'audacieuse, ce livre, ces deux livres sont complémentaires, puisque dans votre roman, puisque c'est un roman biographique, mais enfin c'est un roman, là c'est la première partie de la vie de Rosa Bonheur avec Nathalie Micas, et deuxième partie donc avec Anna, qui va l'accompagner. Ce qui est passionnant aussi dans tout ça, c'est qu'on a une plongée dans le 19e siècle, vraiment absolument extraordinaire. Par exemple, dans votre livre, Natacha Henry, puisqu'on va parler de la première partie de Rosa Bonheur, qui est née donc en 1822, hein, le 16 mars, je crois.
16 mars, ouais.
Son père était Raymond Bonheur, donc qui était peintre, et l'ami d'autres peintres, dont Goya, qu'il a connu très bien, et Corot, parce que Corot, le peintre Corot, suit les progrès de Rosa Bonheur. Alors c'est la fille aînée, elle va pas très tôt sa mère. Hein,
quand elle a 11 ans.
Quand elle a 11 ans. Oui. Et donc elle va et vous montrer dans votre roman, Natacha Henry, que c'est pas évident du tout, du tout, du tout. D'abord pour elle de devenir une femme peintre, tout simplement, parce qu'elle doit se faire une place dans l'atelier de son père. Et votre livre apprend aussi beaucoup sur la condition féminine, je trouve. Par exemple, je crois que c'est vous qui l'écrivez. Même pour travailler, il fallait l'autorisation de son mari. Une fois épousée, la femme redevenait une mineure légalement dépendante de son époux au 19e siècle. Donc Rosa va avoir à la fois de la chance, Rosa Bonheur, beaucoup de chance, puisqu'elle est née quand même avec un père qui était peintre, qui lui transmet tout son savoir-faire quand même. Et en même temps, il va falloir qu'elle mérite cette chance. J'ai l'impression que c'est à la fois un combat, puis des circonstances qui sont quand même assez bénéfiques pour elle.
C'est bien dit, oui, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle est l'aînée de 4 enfants, et le père était peintre, et donc elle a voulu devenir peintre. Et quand leur mère meurt, quand Rosa est l'aînée, donc à 11 ans, elle veut absolument être peintre, mais son père, Raymond Bonheur, il sait que c'est très difficile de gagner sa vie en tant que peintre. Mmh. Il préférait pour sa fille aînée un métier un peu plus sérieux, de façon stable, enfin lucrativement, je ne sais pas comment dire, rémunéré régulièrement, quoi, avec un salaire en fait. En fait, c'est ça. Et donc, il veut absolument qu'elle devienne couturière. Parce qu'à ce moment-là, couturière, on est sûr de trouver du travail. Mmh. Dans les ateliers et tout, il y a plein de travail pour les couturières. Donc, il aimerait mieux ça pour qu'elle ait au moins un revenu stable, quoi, juste pour pas qu'elle crève de faim, en fait. Et puis, elle s'accroche, et à la fin, les parents de son amie Nathalie vont dire, enfin, Raymond, vous voyez bien, il faut absolument la laisser devenir peintre, quoi. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Sauf que, oui, elle a du talent, oui, elle connaît ce monde-là depuis qu'elle est née, mais ça, je crois que la carrière de Rosa Bonheur doit tout à un travail acharné, et une détermination professionnelle sans faille. Et donc, d'abord, c'est lui, le père, qui va lui montrer les premières techniques de dessin, etc. Et puis qui ensuite va l'autoriser, quand il sentira qu'elle est prête, elle pourra aller au Louvre pour copier les maîtres anciens, les Hollandais, les Flamands. Je veux dire, c'est vraiment un travail progressif, quoi. Elle n'est pas née du jour au lendemain en sachant dessiner les vaches, etc. Et elle se forme un peu comme une vétérinaire à l'anatomie animale. Et elle va dans les marchés aux bestiaux, elle va ensuite dans les salles d'anatomie pour voir comment est fabriqué le corps d'un animal. En fait, c'est un travail de quotidien, en fait, pour s'améliorer. Et c'est vrai qu'elle a eu de la chance parce qu'elle était au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire, c'est vrai que ce père... La chance qu'elle a eue, c'est que ce père, il croyait en l'égalité des filles et des garçons, quand même. Donc ça change tout dans une vie. Et il lui a dit, le jour où il lui dit, bon, ben d'accord, alors pas couturière, d'accord, tu vas devenir peintre. Il lui dit ensuite, c'est écrit dans ses souvenirs, il lui dit ensuite, mais tu seras Elisabeth Vigée-Lebrun ou rien. Donc, elle est ado, et il lui dit, soit t'as le niveau de la portraitiste de Marie-Antoinette, soit t'oublies. Donc c'est quand même, on met la barre très très haut, quoi. Donc... c'est un assez bon accompagnement qu'il lui donne, en fait, de lui demander de travailler énormément, de mettre la barre très haut et de lui dire, il n'y a aucun obstacle au fait que tu sois une fille dans ce monde de peintre. Et des encouragements comme ça, c'est vrai que ça change une vie.
Oui, et puis il lui dit, par exemple, son père, il a le sens de la réplique. Il lui dit, tu veux la liberté, paie-le, enfin paie-la, ou voilà, il faut que tu te donnes, toi, ça. Alors, il est lui-même, c'est un homme qui travaille beaucoup, hein, il doit quand même nourrir sa famille. Alors, au début, elle ne veut pas être couturière. Enfin, bon, ça ne marche pas, la couture, ça ne lui dit rien. Je crois qu'elle va en pension, ça ne marche pas. Donc, enfin, ça marche sans marcher. Et un jour, donc, elle a réussi à prendre une place d'abord dans l'atelier de son père. Il prépara à sa fille un coin avec la table, un tabouret et le chevalier restauré. Ce serait désormais son espace. Elle en aurait la responsabilité pleine et entière. On pense à Virginia Woolf, on pense à un espace à soi. Elle a d'abord, et cette notion d'espace dans la vie de Rosa Bonheur est très importante. Donc, enfant, il faut d'abord, parce qu'elle a des frères.
Et une petite sœur.
Ouais. La mère est originaire de Bordeaux. La mère, il y a toute une histoire, puisque la mère est une enfant qui a été abandonnée plus ou moins. On ne connaît pas les origines de la mère, enfin, elle est de Bordeaux. La mère va décéder assez vite, quand elle sera enfant. Et donc, elle doit se faire d'abord sa place dans sa fratrie, dans sa famille.
Et oui. C'est être à la hauteur de ce qu'elle avait envie de faire. C'est pas parce qu'on décide d'être peintre que ça marche. Enfin, il faut vraiment. Effectivement, il lui donne la. C'est ça qui est bien avec ce père, Raymond Bonheur, c'est que. Et ça m'a intéressée pour Rosa Bonheur, l'audacieuse, parce que c'est un livre jeunesse, donc ça s'adresse à 13+, comme on dit dans l'édition, à partir de 13 ans. Et donc, vous devez montrer à des jeunes de cet âge-là comment ça s'est passé pour quelqu'un comme Rosa Bonheur quand elle avait cet âge-là aussi. Vous voyez, donc maintenant, quand je fais des interventions en milieu scolaire, dans les collèges, par exemple, sur Rosa Bonheur, c'est vraiment de leur dire, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, faut que tu l'identifies et que tu y donnes du temps. Et évidemment, au 19e siècle, elles n'ont pas de téléphone portable, des réseaux sociaux et des tas de choses qui prennent un temps fou. Néanmoins, reposez un peu tout ça et je leur dis, identifiez ce qui vous intéresse, lâchez les téléphones et les réseaux pendant un quart d'heure par jour et creusez la chose qui vous intéresse. Mmh. En culture générale ou en pratique technique ou n'importe quoi. Mais oubliez les copains et les copines et faites creusez votre sillon pendant un quart d'heure par jour. Les profs me vouent une reconnaissance éternelle quand je commence à faire ce discours-là. Mais c'est vrai, Rosa Bonheur, si elle était restée assise sur son fauteuil, il ne resterait plus rien. Enfin, c'est important de montrer, c'est pour ça que Albin Michel Jeunesse a soutenu cette idée qu'on a fait Rosa Bonheur l'audacieuse, c'est que c'est important de montrer aux jeunes d'aujourd'hui, aux ados de maintenant, ce que c'était d'avoir 13 ans à cette époque-là et comment tu restes dans l'histoire après, parce que tu as bien travaillé, en fait.
Oui, alors c'est un livre, je tiens à le dire, très... Bon, je l'ai lu, les adultes lisent très bien. Oui, la qualité de votre livre, Natacha Henry, c'est le style est sobre, c'est une très belle introduction à la vie de Rosa Bonheur, justement parce que sa vie, on a l'impression que c'est presque un éternel roman d'apprentissage jusqu'à la fin. Mmh. Cette femme n'arrête pas d'apprendre, n'arrête pas de combattre, n'arrête pas de lutter. Alors, il y a quelque chose de très émouvant aussi. Bon, elle dessine des animaux, comme on sait, elle va peindre des animaux, peintre animalière, mais c'est sa mère, en fait, qui pour apprendre à lire, Rosa Bonheur, la mère de Rosa Bonheur va lui faire dessiner des lettres d'alphabet d'après, si j'ai bien compris, des silhouettes.
Oui, c'est ce qu'elle a raconté elle-même, d'ailleurs. Voilà. C'est qu'elle n'était pas très, très scolaire, quand même, Rosa Bonheur. Donc, pour lui apprendre, même déjà toute petite, pour lui apprendre l'alphabet, sa maman disait A pour âne, B pour biche, C pour canard. Et donc, la petite a été encouragée à apprendre l'alphabet en faisant des dessins d'animaux. On pense que ça vient de là, cette vocation.
Ça vient de là, et dans votre livre et dans le livre de souvenirs aussi, on voit, comme je disais tout à l'heure, un certain pari. Voilà. Parce que alors, elle va prendre l'habit masculin, elle va porter des pantalons. Pourquoi ? Parce qu'elle va se rendre aux abattoirs, dans les abattoirs, pour apprendre, pour représenter correctement un animal. Pour représenter correctement un animal, lui expliqua Rosa, il s'agissait d'étudier les jointures de ses membres et de mesurer chaque partie de son corps, savoir ce qui se tramait sous les poils et sa peau ou son cuir. Un petit peu comme les peintres chinois, la peinture de mémoire, c'est-à-dire on comprend le vivant avant de le peindre ou de dessiner. Et ça, cette compréhension du vivant chez Rosa Bonheur, Natacha Henry, me semble essentielle.
Et c'est ça, et c'est aussi... Par conséquent, une sorte de peintre d'histoire, car il y a dans certains tableaux de Rosa Bonheur des races animales qui ont disparu depuis et que l'on peut identifier grâce à elles. Et les vétérinaires et autres spécialistes du monde animal vous diront qu'il n'y a pas d'erreur dans un tableau de Rosa Bonheur d'un point de vue anatomique, etc.
Et puis aussi, quand elle va justement dans les abattoirs à Paris, faut s'imaginer la scène quand même. Et il y a Monsieur Gravel, je crois, qui devient son protecteur, parce que pour pas, non seulement, dites-vous, il veillait sur Rosa, mais en plus, il lui procurait des clients. Un épicier du boulevard Saint-Martin offrit de troquer des aquarelles animalières contre des condiments et du pain d'épices. Un confectionneur de chemises la paya en toile vierge. Voilà, alors le troc, la débrouillardise, c'est plein de vie, finalement.
Mais moi, j'y tiens beaucoup, parce que je trouve que je n'aime pas du tout qu'on décrive des héroïnes seules et hors sol, et youpi, c'est cuicui, Rosa Bonheur, les petits oiseaux, c'est merveilleux, les animaux, tout ça. Je suis, pour elle ou pour d'autres grands personnages féminins de l'histoire, je trouve ça vraiment pénible. Et je me suis beaucoup attachée dans Rosa Bonheur l'audacieuse, qui est donc le mien entièrement.
Je m'excuse. On passe un peu de l'un à l'autre.
Dans Rosa Bonheur l'audacieuse, je me suis vraiment attachée à lui donner la chair qui allait autour. Les gens qui étaient autour, comment elle allait de A jusqu'à B, comment elle va de chez elle aux parents de Nathalie, qu'est-ce qui se passe quand elle se retrouve toute seule au Louvre à essayer de copier les anciens, etc. Je veux dire, bon, elle avait des cheveux courts, parce que son père un jour lui a coupé les cheveux à la mort de la maman en disant, moi je sais pas faire des traits, on va pas s'embêter avec ça. Donc toute sa vie, elle a adopté ses cheveux courts. Elle avait une tenue un peu comme ça, pas complètement féminine, disons, pour aller vite. Bref, en tout cas, ça n'empêche pas les mecs lourds qui traînent dans ces endroits-là. Et il y avait tous les étudiants en beaux-arts qui étaient là quand même. Ah là là, la petite, là, 16 ans et tout. Donc évidemment, c'est pénible. Parce que bon, c'est pas de la drague. C'est genre, ils prennent l'espace, hein, ils prennent la place. Donc ils vous empêchent en tant que jeune femme de travailler. Ils sont encore là aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc elle doit effectivement lutter contre ça. Et puis il y a Nathalie qui au début est souffrante, et puis finalement elles font tandem pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et puis il y a les parents de Nathalie, et puis il y a Paris de cette époque, et puis il y a les événements historiques évidemment de 1848. J'y tiens beaucoup à ça, moi. Je pense que nous sommes toutes et tous le fruit de notre époque, et que Rosa Bonheur, plus que n'importe qui, a compris son époque, a été le plus loin possible avec ce qu'elle pouvait en faire. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de la montrer dans la ville, dans Paris, avec Nathalie, dans ce monde qu'elle essayait de fabriquer.
D'apprivoiser, de traverser Paris. La révolution de 1848, je crois que c'est vous qui le dites, parce que certains avaient fondé des clubs et des journaux comme La Voix des femmes de Jenny Niboyer, La politique des femmes de Désirée Gay, ou L'opinion des femmes de Jeanne de Rouen. Une dénommée Jenny d'Héricourt demanda l'abrogation du code civil de 1804.
Et ça, c'est hyper important. Si on n'a pas compris ça dans l'histoire de Rosa Bonheur, on passe à côté de quelque chose d'important. Elle est dans un 19e siècle féministe. Alors, elle a une vie féministe. Je ne me marie pas parce que les garçons ne m'intéressent pas du tout, et je ne me marie pas parce que sinon, avec le code Napoléon, je vais me trouver esclave d'un mari, donc à quoi ça sert, franchement, quelle idée. Donc non, merci, donc je fais ma vie avec Nathalie qui est d'accord avec moi, c'est super. Voilà la position de Rosa Bonheur. Je vais peindre des animaux immenses, qu'aucune femme n'a jamais approché, dans des endroits incroyables comme les abattoirs. Ça aussi, c'est son féminisme. Et sa priorité absolue, depuis le début, c'est de gagner sa vie et d'être autonome financièrement. Et ça, elle le voudra pour ses élèves par la suite, quand elle aura une école d'art gratuite, école de dessin gratuite pour les jeunes filles, que les femmes, là, puissent avoir un métier qui leur apporterait de quoi gagner leur vie de façon indépendante, sans dépendre d'un mari. Ça, c'est le féminisme de Rosa Bonheur. Et d'aller porter les pantalons, bon, permission de travestissement, tout le monde trouve ça d'un exotisme incroyable. C'est vrai que c'est pas inintéressant. Voilà. Alors ça, c'est le féminisme de Rosa Bonheur. Mais le féminisme du 19e siècle est extrêmement important. Donc elle n'est pas dans les manifs, elle n'est pas en train de faire des pétitions pour qu'on ait le droit de vote ou qu'on abroge le code Napoléon. C'est l'ambiance quand même.
Vous mettez, après 1848, je crois que c'est vous qui l'écrivez, le suffrage prétendument universel ne le devint qu'à moitié, car réservé aux seuls hommes, on sacrifia les femmes qui n'avaient toujours pas le droit de voter. Voilà, donc c'est un peu une histoire à deux vitesses, l'histoire des hommes et l'histoire des femmes, on est dans le 19e siècle. Peut-être que Laurent, tu vas nous lire un extrait, tiens, j'y pense, je ne sais pas lequel.
Merci.
Alors c'est les souvenirs,
Souvenirs de ma vie, Rosa Bonheur. Oui.
Au lieu d'apprendre à lire et à écrire, je préférais m'amuser avec les petits paysans. Je leur dessinais dans le sable tous les hôtes de notre basse-cour. Les leçons de français étaient pour moi des moments toujours très pénibles. La sueur me perlait sur le front pendant que ma mère s'épuisait sans succès à me seriner l'alphabet. Un jour, cependant, elle eut une idée lumineuse. Elle me dit de dessiner un âne à côté d'un A, un bœuf à côté d'un B, un chat à côté d'un C, et ainsi de suite, jusqu'au Z, auquel répondait un zèbre, animal que je n'avais jamais vu, mais qui ressemblait à un cheval bariolé par un maquignon fantaisiste. Cette intelligente leçon de choses fut une révélation pour mon cerveau enfantin. J'essayais de faire des tableaux comme mon père et je barbouillais sur toutes les places vides que ma main pouvait atteindre. Mon père m'ayant expliqué qu'il faisait poser devant lui les personnes pour les dessiner, l'idée me vint de l'imiter et d'adosser mon polichinelle à une chaise. Après quoi, je me mettais à le copier. Comme presque tous les enfants, j'étais très curieuse de savoir comment j'étais venue au monde. Un jour, j'interrogeai M. Dublanc sur ce point qui m'intriguait si fort. Sans hésiter, il me répondit « C'est un bateau à vapeur qui t'a apporté à Bordeaux. » Mon esprit fut si vivement frappé que dès le lendemain, je m'en allais sur le sable de la Garonne pour voir si les bateaux à vapeur qui passaient ne m'apporteraient pas, par hasard, un petit frère ou une petite sœur. Je ne voyais naturellement rien venir, mais cela ne m'empêchait pas d'y retourner, comptant bien avoir plus de chance. Certains jours, je finis par m'y endormir. Une vague m'aurait enlevé si ma nourrice qui me cherchait ne m'avait rattrapé et apporté à la maison, complètement réveillée, mais toute ruisselante. Un soir, tandis que je me promenais avec ma mère sur les bords de la Garonne, voyant scintiller dans l'eau l'image de la lune et celle des étoiles, je me mis à serrer de toutes mes forces la main effilée qui tenait la mienne, en m'écriant « Maman, allons jusqu'au bout de la terre, là, nous les verrons bien mieux. »
Merci Laurent, très très bien, c'est en direct. En plus, et Laurent ne connaît pas du tout l'objet du délit, si on peut dire à chaque fois, c'est tout nouveau. Et c'est très important, allons jusqu'au bout de la terre. C'est, voilà, il y a tout Rosa Bonheur là déjà.
Il y a tout Rosa Bonheur, parce que c'est vrai que... Bon, c'est une voyageuse, hein, ouais. À cette époque-là, quand même. Elle a effectivement été en Écosse, en Angleterre, beaucoup dans les Pyrénées, dans le Cantal, en Bretagne, en Allemagne, en Prusse. Voilà. Donc, moi, je trouve des fois qu'elle ressemble aux explorateurs du 19e siècle. C'est-à-dire que, vous voyez, qui partaient loin et qui rapportaient des échantillons de plantes ou d'animaux, des choses, pour partager cette culture et cette connaissance avec les gens qui étaient restés ici. Je trouve qu'elle a un peu de ça. Par exemple, elle part dans le Cantal. Elle revient avec des tableaux de vaches du Cantal. Ce sont des races dont les gens à Paris n'avaient aucune idée. Évidemment, on est avant la photographie. Et donc, elle partage ses connaissances ainsi. Et c'est un sorte de travail de chercheuse, un peu.
Oui, de chercheuse, de découvreuse.
De découvreuse, oui.
Allez, vraiment,
ça, moi, je tiens beaucoup à cet aspect scientifique de Rosa Bonheur. Je pense que c'est très important, ce partage des connaissances, de montrer à des gens qui ne sont pas sur place à quoi ça ressemble, un peu, en fait.
À quoi ça ressemble et toujours aller au plus loin de la compréhension du vivant. Alors, on va faire une petite pause musicale, parce que c'est pas tout ça, voilà. Et puis après, nous poursuivons notre conversation.
Quand on visite le jardin de Rosa Bonheur autour de son château, eh bien, c'est un jardin féerique de Maurice Ravel.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. J'allais dire, donc vous êtes dans l'atelier de Rosa Bonheur. Nous parlons de Rosa Bonheur en présence de Natacha Henry, qui vient de publier Rosa Bonheur, l'audacieuse, aux éditions Albin Michel. Et nous parlons des souvenirs de ma vie de Rosa Bonheur, coécrit avec Anna Kumpkle. Je vais finir par y arriver. Qui vient de paraître aux éditions Phébus. Magnifique édition. Le texte est établi, bien sûr, par Natacha Henry. Alors, on a parlé, Natacha Henry, le côté, la vie. C'est une vie du 19e siècle, d'une femme du 19e siècle, qui à Paris d'abord. À Paris, oui, parce qu'elle est originaire de Bordeaux, mais enfin, sa famille est à Paris. Une enfant de Laval, puisque son père est peintre, donc elle est dans un atelier, elle apprend sur le terrain avec ses frères. Ses frères vont d'ailleurs tous être artistes.
Oui, les quatre enfants en fait, hein, parce que Rosa Bonheur est donc l'aînée de quatre enfants, et puis ensuite deux frères et une petite sœur. Leur mère meurt quand Rosa a 11 ans. Et donc, les deux frères vont être mis un peu en pensionnat et la petite sœur va partir chez une tante, chez une parente, disons, à Bordeaux. Donc, pendant un certain temps, Rosa va être seule avec son père. Mais par la suite, tout le monde revient à la maison et tout le monde sera peintre. Quatre enfants, y compris Juliette Bonheur, la petite sœur, qui a fait des très jolis tableaux. Ils sont tous un peu dans la même veine, hein. C'est toujours un peu de la peinture animalière, avec des beaux paysages, des grands cieux, des grands ciels. Oui, ce sont des familles entières d'artistes.
Famille d'artistes, où rien n'est acquis, où il faut gagner sa vie avec son art. Alors, son père a été fait partie des Saint-Simoniens. C'est assez particulier. Je pense qu'alors il y a même un récit d'ailleurs d'initiation maçonnique à l'intérieur de ses souvenirs. On voit. Donc c'est vraiment, je dirais presque typiquement aussi 19e siècle. Son père va se remarier. Alors elle, pour elle, c'est quand même un choc. Hein. Il faut quand même qu'elle. Mais à chaque fois, elle s'adapte. Rosa Bonheur. Alors là, on parle de la Rosa Bonheur qui est jeune, hein, parce que au fur et à mesure. En fait, elle va d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, conquérir le droit de travailler dans l'atelier de son père, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis après, il lui dit, tu sais, maintenant, c'est les choses sérieuses, faut être admis au salon. Le salon étant un événement considérable à l'époque, Natacha. Oui.
Non, mais c'est vrai que vous avez raison, je reviens un peu sur ça, le fait que chaque fois qu'il y a quelque chose de très très difficile, Rosa Bonheur est dotée d'une sorte d'optimisme, ou alors de la politesse du désespoir, je ne sais pas, ou alors qu'elle veut laisser à la postérité une image d'elle assez dynamique, positive, etc. Enfin, on dirait aujourd'hui, ce serait anachronique, mais enfin, on pourrait dire aujourd'hui qu'elle a une résilience assez colossale. Par exemple, ce père, effectivement, part chez les Saint-Simoniens. Physiquement, il va vivre dans le couvent des Saint-Simoniens, qui est à Ménilmontant, à Paris, avec une bande de garçons qui veut créer un monde meilleur, en étant ensemble et en réfléchissant à un meilleur avenir pour l'humanité. Politiquement, la chose est pas mal. Le problème, c'est qu'il a quand même laissé tomber Madame et les quatre enfants, et que c'est comme ça que la maman de Rosa Bonheur, et je l'ai beaucoup décrit dans Rosa Bonheur l'audacieuse, va se tuer à la tâche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Elle va glaner dans les marchés pour trouver trois carottes, elle va donner des cours de musique, tant bien que mal, et donc c'est la misère. Et c'est la misère à tel point que la mère de Rosa Bonheur meurt. Elle dit dans ses souvenirs qu'elle meurt d'épuisement. Moi, je me demande si c'est pas du choléra, parce que c'était comme ça beaucoup. On ne saura jamais. En tout cas, elle est enterrée dans une fosse commune, la mère de Rosa Bonheur, Sophie Bonheur. Et ça, Rosa Bonheur s'en remettra jamais de ça. Et c'est pour ça qu'elle veut gagner sa vie. Elle veut une sépulture digne pour ses parents, enfin pour son père, pas pour sa mère, mais plus tard pour son père, pour elle-même d'ailleurs. Avec Nathalie Mikas, puis Anna Klumke, elles sont au Père Lachaise. C'est quelque chose. Elle veut plus jamais connaître la misère. Mais ce père, il revient de chez les Saint-Simoniens et il la prend comme élève, etc., etc. Et finalement, je ne sais pas si c'est de l'ordre du pardon ou de la résilience où on tourne la page, mais elle ne lui en veut pas. Il avait abandonné sa femme et ses quatre enfants. Madame est morte dans la misère, un peu à cause de ça quand même. Et puis quand il revient. Eh bien, c'est quand même là qu'il devient son père, au fond, quand elle a 11 ans. Un type assez sympathique qui va la prendre sous son aile, qui a des amis encore plus sympathiques. Et puis, ils vont se comprendre. C'est assez chouette, cette réconciliation C'est très important dans la vie de Rosa Bonheur, je pense ça. Jusqu'au jour où il rencontre une nouvelle compagne, qui est vraiment la méchante belle-mère des contes de fées. Mmh. Et ça, j'en ai fait grand cas dans le livre de roman jeunesse, parce que je m'adresse à des ados qui sont peut-être dans cette situation, pour dire, t'es pas seule, peut-être que... Voilà, enfin, c'est pas évident, quoi. Et dans certaines situations, les familles recomposées, etc., voilà, si tu trouves que ta belle-mère est difficile, eh bien, Rosa Bonheur aussi. Voilà, et c'est là qu'elle va prendre son indépendance, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a plus besoin d'elle. Voilà, c'est-à-dire que son père se remarie avec cette femme, et puis quand lui va mourir, eh ben, elle s'en va.
Oui, elle s'en va, mais comment dire, son père, en fait... Ce qui est très intéressant dans votre roman et dans sa vie de Rosa Bonheur, et dans ce qu'on dit de Rosa Bonheur, c'est que son père devient son coéquipier. Ils sont sur le même bateau, j'allais dire. Ils sont sur un bateau. C'est pour ça que ce livre est très actuel aussi. Parce que ça parle d'une famille monoparentale, finalement, aussi. Oui. Côté, bon, il se retrouve veuf avec ses enfants. Il doit gagner sa vie avec son art, ce qui n'est pas facile. Et ils doivent se débrouiller avec la vie, le faire avec. Et ils font tous avec. Alors, il y a les frères qui aident, chacun un qui va être sculpteur, l'autre va être aussi, je crois, peintre animalier. Tout le monde est sur le même bateau, si je peux dire, et ils vont tous mettre la main à la pâte. Alors, elle, à un moment donné, je crois, je voudrais donner à la peinture animalière les dimensions de la peinture d'histoire. Ça aussi, c'est tout Rosa Bonheur. C'est du moins ce que vous faites dire, vous, à Rosa Bonheur. Là, je pense que c'est vous qui avez écrit ça. Et c'est vrai que, voilà, il y a une détermination, il y a une volonté, la volonté de comprendre et de se, non pas de se dépasser, c'est forcément, mais de faire au mieux.
Et voilà. Puis une ambition, c'est une ambition assumée. Ambition. Peinture ouais. d'histoire, ça veut dire des toiles grandes.
Mmh. Très grandes, elles sont très,
très grandes. Très grandes, des peintures animalières très très grandes. Et ça, effectivement, c'est assez révolutionnaire pour l'époque. Oui, oui. Et puis, elle, c'est quand même physiquement pas si simple à faire. Enfin, oui, oui, elle voit pas le problème. Elle a beaucoup d'ambition, au fond. C'est ça dont il s'agit.
Dans votre roman, Natacha Henry, il y a des dialogues, il y a beaucoup de dialogues, ce qui est très bien pour les jeunes. Comment vous avez écrit ces dialogues? Est-ce que vous êtes basé sur des documents précis, forcément? Comment, ou alors vous avez laissé parler votre intuition?
Il y a beaucoup de recherches. Hein. D'abord, ouais, je connaissais le livre qui allait ensuite devenir Les Souvenirs de ma vie, mais qui à l'époque n'était pas republié et qui voilà, donc qu'on pouvait trouver en bibliothèque, etc. Donc ça, c'est une source absolue pour l'histoire de Rosa Bonheur. Et puis ensuite, il faut trouver ce dont on a besoin pour décrire l'époque et décrire les situations humaines. Et donc les dialogues, c'est soit ça vient du souvenir de ma vie, effectivement, déjà,
ouais.
Soit ce sont des créations de moi, mais qui sont plausibles. C'est-à-dire que on n'a pas, dans les collèges, il n'y a pas d'enregistrement de leurs conversations. Donc je crée un dialogue en pensant qu'il y a de fortes chances que ça aurait pu se passer comme ça, et que personne ne peut me dire le contraire. C'est pas anachronique, c'est pas... Voilà, ce sont des personnages que j'ai... dont j'ai à peu près compris, disons, la personnalité, les relations. Vous devez tout poser avant de commencer à écrire, en fait.
Donc vous aviez tout, enfin, toutes les recherches, voilà. Enfin, vous êtes bien imprégné de l'univers de Rosa Bonheur, si je comprends bien, puis après... Voilà, c'est...
Par exemple, la première fois que le père va lui présenter sa future deuxième épouse, là, c'est décrit dans les souvenirs de ma vie. Tous les soirs, on allait se promener, papa et moi, dans Paris. Et puis tout d'un coup, un soir, il m'a dit, devant un immeuble que je ne connaissais pas, « Attends, là, j'arrive. » Et puis il est monté, puis il est redescendu avec une dame que je n'avais jamais vue. Et puis d'un coup, il se promenait en se tenant par la main. Et puis moi, je n'ai pas compris. Et voilà. Puis quelques temps plus tard, c'était ma belle-mère, quoi.
Ouais.
Donc ça, elle le raconte comme ça. Donc moi... Comme elle le raconte très bien dans Souvenirs de ma vie, moi, pour Rosa Bonheur l'audacieuse, j'ai matière à créer une scène qui sera compréhensible pour les ados d'aujourd'hui, étoffée un peu plus. Je regarde le parcours qu'ils ont fait dans Paris. Qu'est-ce qu'elle pense, elle, pendant ce temps-là, qu'ils montent chercher cette femme? Comment elle marche derrière sans que personne ne s'intéresse à elle, parce que les deux, ils sont en train de roucouler, parce que le père, il est amoureux, et elle, elle est derrière en train de traîner. Et quand vous allez dans les collèges, vous dites à ce moment-là, et vous savez, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc vraiment, elle est toute seule au monde en train de regarder son père avec cette nouvelle femme. C'est affreux, vous voyez. Donc, elle ne peut pas envoyer un message à une copine. Donc, c'est important, ça. C'est que je veux que les ados d'aujourd'hui s'identifient et pour ça et en même temps plongent dans une époque vraiment.
C'est, on plonge dans une époque parce qu'on apprend par exemple à moins de 30 ans, elle a déjà son propre atelier rue de l'Ouest, elle nourrit aussi toute sa famille, elle a la charge de famille. Au moment des obsèques du décès de son père, c'est elle qui va gérer tout ça, c'est pas facile. Et elle va toujours avoir à cœur d'ailleurs de faire vivre parce qu'elle délègue un peu de pas mal de travaux, de commandes qu'elle a de peinture. Donc ses frères et sœurs l'aident, et même Nathalie Micas va l'aider. Alors sa relation avec Nathalie Micas, pas un seul moment, d'ailleurs il y a une notion de... On vous parlait d'homosexualité, on pourrait plutôt parler d'homo-sentimentalité, comme disait Françoise Parturier, c'est-à-dire c'est plutôt une sorte de sororité, ça c'est un mot très à la mode, mais c'est vrai que Nathalie Micas peut être sa sœur, puisque... Chez les Micas, elle retrouve un foyer. En fait, vous décrivez ça très bien, que la mère qu'elle n'a pas eue, elle la retrouve chez la mère en fait de Nathalie. Et elle est adoptée tout de suite chez cette seconde famille qui va croire en elle.
Oui, c'est très important. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que Rosa Bonheur, à ce moment-là, a 14 ans. Mmh. Elle vit avec son père, peintre. Et puis, un beau matin, on frappe à la porte et c'est Monsieur Micas qui vient et qui demande à Raymond Bonheur... ma fille Nathalie est souffrante, elle ne va pas rester longtemps sur terre, on dit les médecins, donc nous venons vous demander la faveur de faire son portrait, comme ça nous aurons toujours l'image d'elle quand elle ne sera plus là. Monsieur Bonheur dit mais oui bien sûr, et c'est l'ouverture du livre L'Audacieuse, parce que c'est important, Nathalie Micas, c'est ce qui est arrivé le plus important à Rosa Bonheur sentimentalement dans sa vie. Donc Nathalie a 12 ans et elle vient pour poser, elle est souffrante, et donc c'est un peu étrange pour Rosa Bonheur, mais Nathalie Micas va survivre.
Et bien sûr.
Elles vont vivre ensemble ensuite jusqu'à ce que la mort de Nathalie les sépare 50 ans plus tard.
Et d'ailleurs, Nathalie Micas va même s'occuper, c'est un peu la femme d'affaires hein, du tandem, c'est elle qui s'occupe quand même de gérer les commandes, comme fait vraiment beaucoup de femmes d'artistes. Y a des sorties aussi, alors ça c'est savoureux, des sorties à cheval dans Paris. Alors vous attardez d'ailleurs sur les omnibus, les percherons, les cauchois, les ardennais. On croit même entendre le son de Paris avec tous les fiacres. Et Rosa Bonheur qui est toujours audacieuse, donc qui un jour fait une chevauchée dans Paris. Enfin, c'est absolument épatant. Laurent, tu vas peut-être nous lire un petit extrait, tiens, justement, pour nous mettre dans le bain.
Dans la rue Saint-Antoine, en face de la maison que nous habitions, se trouvait une boutique de charcutier. En plein étalage, au milieu du lard et des saucisses, était exposé en guise d'enseigne un petit sanglier de bois, sculpté et enluminé. Quoique ce fût loin d'être un chef-d'œuvre, l'animal semblait vivant, et chaque fois que je sortais, je m'apitoyais sur son sort car j'étais bien persuadé qu'il attendait son tour d'être dépecé. Paris me paraissait un Bordeaux, fort agrandi, mais beaucoup plus laid. Le pain y était trop fade et tout, jusqu'au soleil, me semblait gâté. Et puis, je n'avais plus ma terre, mes arbres et mes animaux. Les Silvella, qui tenaient une pension pour jeunes gens venus pour la plupart de l'Espagne et de l'Amérique du Sud, avaient été d'une aide précieuse pour mon père à ses débuts, en lui procurant des leçons à donner. Mon père se forma ainsi une petite clientèle qui, tant bien que mal, mais plutôt mal que bien, nous permit de vivre. Cependant, je grandissais. Mes frères faisaient de même et nous n'avions d'autres institutrices que notre mère. Lorsque M. Antin, un vieux janséniste qui tenait une école dans la maison, proposa à mes parents de nous prendre comme élèves. Sa proposition fut tout de suite acceptée et voilà comment j'eus d'abord, pour camarades, des petits garçons. Heureusement que cela ne me effrayait guère, j'étais bien habitué à tenir tête à mes frères et lorsque nous allions jouer sur la place royale, c'est moi qui étais le plus garçon de tous. La révolution de juillet m'a laissé un souvenir très vif. Ma petite sœur Juliette venait de naître, le 19 juillet, lorsqu'on commença à se battre partout dans notre quartier, et je me rappelle fort bien avoir vu, devant notre porte, une pièce d'artillerie tirée dans la direction de la Bastille. Sa première détonation eut même cet effet, par l'ébranlement qu'elle causa, de jeter mon frère au bas de la porte cochère sur laquelle il était grimpé. J'ai vu aussi la garde royale chargée sur les insurgés et ceci l'a repoussé en jetant de grands cris. Ces années-là furent loin d'être heureuses pour nous. Nous étions quatre enfants et mon père ne trouvait plus de leçons à donner. Le choléra, qui survint en 1832, n'améliora pas notre sort. J'ai encore présent à l'esprit le lugubre spectacle de ces charrettes, chargées de morts, qui, toute la journée, circulaient dans les rues. Il nous avait fallu quitter la rue Saint-Antoine pour aller demeurer rue des Tournelles, une vieille maison Louis XIII, où il y avait un grand escalier de pierre. Nous habitions au-dessus d'un croque-mort et cela me faisait peur lorsque j'étais seul. De la rue des Tournelles, nous avons été sur la place de la Bastille, ensuite à la rue Taitbout.
Merci Laurent. C'est vrai, il y a des pépites. Quelles sont les pépites que vous avez trouvées justement dans ces souvenirs de ma vie de Rosa Bonheur, Natacha?
C'est vrai que c'est très poétique en fait.
Oui.
Ouais, c'est très joli, c'est très poétique. Elle a beaucoup d'humour au fond. Et puis tout est très imagé. Enfin, il n'y a rien de très abstrait finalement. C'est elle que c'était, quoi. Donc ça, ce sont des parties où elle parle elle. Il y a aussi des parties où Anna Klumke, par exemple, se demande est-ce que je reste, est-ce que j'accepte d'être biographe au lieu de repartir aux États-Unis faire ma carrière de peintre. C'était une très grosse décision pour elle. Donc c'est un peu ces deux voix aussi qui sont dans ce livre. Et c'est pour ça que c'est magique et on peut même vouloir le lire en piochant, hein, finalement, par-ci, par-là, hein, sur certains thèmes, hein, parce qu'il est chronologique un peu, mais pas seulement, finalement.
Pas seulement, on découvre... Puis on a l'impression, justement, qu'elle est dans Paris, elle est citadine, et finalement, la nature, elle va la recréer par son art aussi.
Oui, c'est vraiment une fille de la campagne, franchement. C'est pour ça que quand Laurent décrivait tout à l'heure, a lu tout à l'heure l'extrait où sa maman lui dit comment dessiner l'alphabet avec les animaux, c'est parce qu'à ce moment-là, ils sont à la campagne et il y a des animaux partout. Enfin. Et d'ailleurs, il y a aussi un peu des animaux encore à Paris à cette époque-là, ne serait-ce que les abattoirs et les chevaux dans la rue, etc.
Et elle y va.
Mais c'est vrai que la ville, c'est pas vraiment son truc.
Ah, peut-être que Laurent, tu peux peut-être nous lire justement, puisqu'on parle de nature, ça va être le dernier post-it, je pense. Dernier extrait où il y a la chambre de Rosa Bonheur. Et puis après, on fera une pause musicale. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça.
Au château de Bille, la chambre de Rosa Bonheur occupait toute la largeur du premier étage. Elle était éclairée aux deux extrémités par de grandes fenêtres, l'une ouvrant sur le levant, l'autre sur le couchant. Les meubles avaient l'aspect un peu sévère, propre aux palissandres sculptés. Disposé au fond d'une large alcôve, son lit était tendu de rideaux en reps cramoisi, bordé d'une bande de velours que Mademoiselle Micas avait autrefois garnie de broderies. Au grand étonnement de qui pénétrait dans cette chambre pour la première fois, la pièce était encombrée de volières. Le couloir d'accès en était aussi rempli, cages dorées de toutes formes et de toutes dimensions dans lesquelles s'agitait tout un peuple d'oiseaux. Il y avait là plus de 60 petits pensionnaires ailés de toutes espèces, de toutes couleurs, et l'on croira sans peine que, du matin au soir, ils faisaient un bruit assourdissant. Sans pourtant les avoir jamais beaucoup dessinés ni peints, Rosa Bonheur s'intéressait vivement à tout ce petit monde emplumé. Le fait d'en avoir même dans sa chambre et sur ce point fort caractéristique, chaque matin, elle leur donnait des graines. Au printemps, elle installait dans les cages des nids propres à recevoir les couvées. Elle s'était procuré une petite boîte à musique pour leur apprendre à chanter. Un jour, dans une de nos causeries à l'atelier, je m'étonnais qu'elle n'éprouvât aucune gêne de leur présence. Aucune, fit-elle, du reste. Mes oiseaux ne chantent que lorsqu'ils me voient descendre du lit. C'est le bonjour que chacun m'adresse dans sa langue.
Voilà, merci Laurent. C'est vrai que c'est très, très poétique et cette nature, c'est comme un imaginaire. Nous sommes au 19e siècle quand même, je ne sais pas, oui,
Oui, et puis, il faut dire que Rosa Bonheur était une grande amatrice de musique. Donc, quand elle décrit les chants des oiseaux, qu'elle leur met une boîte à musique pour qu'ils apprennent à chanter, qu'elle-même se réveille au son de ses chants, elle était une grande amatrice d'opéra, par exemple. Voilà, ce sont des choses qu'on sait d'elle. Et donc, cette histoire d'oiseau dans sa chambre, ça les résume très bien.
Voilà, on va écouter on fait une pause musicale, je vois, ça s'agite en régie. Et puis après, nous poursuivons notre balade.
Oui, tu me parles d'oiseau et j'ai sous le nez l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky, le final.
Radio Liberté 89.4, émission Bibliomanie. Et nous parlons de qui ? De Rosa Bonheur avec Natacha Henry, qui vient de publier Rosa Bonheur, l'audacieuse, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc ça, si vous, pour les ados, même pour les grands ados comme moi, voyez, c'est passionnant. Si vous voulez, c'est une belle initiation à la jeunesse, d'ailleurs, de Rosa Bonheur. Et le livre phare, le livre clé, Souvenirs de ma vie de Rosa Bonheur, avec coécrit avec Anna Klumke aux éditions Phébus. Voilà, avec d'ailleurs un très beau cahier photo, hein, à Natacha Henry. Hein. Oui,
on a mis à l'intérieur, enfin, c'est pas moi, hein, c'est la maison d'édition Phébus.
Oui, mais c'est vrai que la sélection.
On a mis un cahier photo de tableau de Rosa Bonheur pour qu'on voit un peu de quoi on parle.
Oui.
dans ce livre et c'est vrai que c'est joli, oui.
C'est une... Alors, bon, on apprend plein de choses, bon, à la fois sur le 19e siècle. C'est vrai qu'à chaque fois, je parlais de l'importance des lieux pour Rosa Bonheur. Je pense, vous savez, au livre d'Hetzel, vous avez les gravures. Quelque part, à chaque fois que quand j'ai lu les souvenirs de Rosa Bonheur, la façon dont comment elle évoque les lieux, on a l'impression de voir une gravure apparaître sous vos yeux. Surtout ce château, quand même, cet atelier. Elle a le sens de l'atelier, elle va en faire construire le jardin et l'atelier, j'allais dire.
En fait, ce qu'elle raconte dans les souvenirs de ma vie, c'est que la notoriété est venue.
Voilà.
Puisque d'expositions en salon, en commande de l'État, puis de particuliers, puis d'avoir des galeristes et des agents qui travaillent beaucoup pour elle, etc., etc., elle a quand même remporté des prix, des commandes. Et donc, elle est devenue une personnalité publique. Et ce qui fait que son atelier dans Paris était quand même envahi de curieux et de gens qui venaient toute la journée frapper à sa porte pour la voir pour de vrai, pour lui poser des questions, pour l'approcher. Vous savez, c'est le système des stars qui ne peuvent pas être tranquilles deux minutes parce que Paris est petit à ce moment-là. Il y a personne comme elle, donc les gens débarquent. Mais Rosa Bonheur, ce qu'elle veut depuis toujours, c'est travailler et être tranquille. Elle n'est pas tellement comme ça. Elle saura plus tard doser les mondanités, hein, parce qu'elle n'est quand même pas la dernière à aller faire des mondanités avec les impératrices d'ici et là. Et elle aime bien ça, notamment quand elles iront sur la Côte d'Azur à Nice.
À Nice,
elle aime bien ça, les mondanités. Mais Rosa Bonheur, elle a quand même un trait de caractère très important, je trouve, moi, c'est qu'elle est capable d'être dans tous les milieux sociaux. Alors, les mondanités, c'est très bien, c'est très pratique pour vendre des tableaux, ouais. C'est assez sympa parce qu'on met une belle robe et des décorations et que, voilà, c'est chic, elle aime bien le côté chic. Mais elle est bien avec les paysans, elle est bien avec les gars des abattoirs, elle est bien dans ces milieux-là. Donc, il y en a marre que les gens débarquent à l'atelier toutes les trois minutes. Parce qu'au fond, et ça c'est un très beau passage dans ses souvenirs, par elle-même, hein, qu'elle dit, c'est qu'il lui prenait tout son temps, elle ne peut plus travailler en fait. Et quand on veut être peintre animalière et vendre ses toiles et peindre encore un nouvel animal et trouver un nouveau mouton et repérer un nouveau cheval, tout ça en duo avec Nathalie Micas qui fait la partie financière, etc. Si tout le monde débarque toute la journée, vous ne pouvez plus rien faire, quoi.
Oui.
Donc, il a fallu déménager. Et un de leurs amis, lui, leur a trouvé cette maison à côté de Fontainebleau, pas très loin de Fontainebleau, donc en bordure de la forêt de Fontainebleau, à Thomery, en Seine-et-Marne. Et c'est important parce qu'effectivement, là, il y a des animaux, par exemple. D'abord, elles vont installer une ménagerie pour avoir des modèles sous la main. Et ensuite, on n'est pas loin de la forêt de Fontainebleau, donc elle peut prendre son tilbury, c'est-à-dire une petite charrette avec son cheval. Et elle décrit très bien ces scènes où elle va seule très tôt le matin, dans la forêt de Fontainebleau, parce qu'elle sait où le cerf va venir prendre de l'eau, où la famille cerf avec la biche, le cerf, etc., vont machin, où les sangliers vont traverser, etc. Rosa Bonheur, d'après les gens qui l'ont fréquentée à ce moment-là, Rosa Bonheur a un talent véritable pour être avec les animaux. Ça, c'est absolument vrai. Donc, si elle s'assied dans une clairière avec un crayon et un petit carnet en attendant un animal, au moment où il arrive, il reste. Parce qu'elle a ce calme. Elle sait le faire. C'est son métier, quoi. Elle sait le faire. C'est son métier. Donc, l'animal reste. Donc là, elle fait un croquis. On fait 5-6 croquis quand on veut destiner un animal. Parce que l'animal bouge. C'est la différence avec le portrait d'un être humain,
c'est ça.
À qui vous pouvez dire pas bouger. Ouais. Mais le cerf ou la biche va bouger, boire de l'eau, relever la tête, etc. Donc elle fait 5 ou 6 croquis, puis elle y revient, parce que l'animal, finalement, à moins de partir, fait 5 ou 6 pauses, et elle a ainsi emmagasiné, comme ça, de la matière. Ensuite, elle retourne dans son atelier, et c'est là qu'elle peindra vraiment à l'huile ou à aquarelle les vrais animaux... dont on connaît les toiles aujourd'hui, en fait.
Et il faut dire aussi qu'elle dresse quand même à Lyon. C'est quand même pas banal. Hein. Enfin, je veux dire,
oui,
les fauves, mais je pense qu'à chaque fois, elle n'a pas peur de la difficulté.
D'ailleurs, dans ses souvenirs, que c'est avec la guerre de 1870, hein, quand la région est quand même occupées par l'armée et que c'est qu'on grève de faim, donc elles font la soupe pour tous les habitants du village. Enfin, c'est une fille de du sol, hein, ancrée dans le sol. Et elle l'aide, elle a le sens du collectif à ce moment-là. Hein. Ouais. D'ailleurs, elles ont créé l'école communale ensemble, Nathalie et elle, pour donner l'éducation aux enfants du coin et qui devaient marcher trop loin pour y arriver, etc. Donc, elle a ce sens très pratique, et Nathalie Micas aussi, je pense qu'ensemble, elles étaient très pratiques comme ça. Et effectivement, il va y avoir une ouverture de cette maison vers l'extérieur. Et elle dit, dans ses souvenirs de ma vie, c'est avec la guerre de 1870 que j'ai eu envie de faire des fauves. Vous voyez, c'est drôle parce qu'elle le relie à cet événement historique, en fait. Et donc, il y a un ami qui dirige un cirque qui va lui prêter de Lyon. Enfin, il y a toutes ces anecdotes de Lyon, oui.
Et puis, il y a beaucoup. Alors, elles sont très modernes quand même, dans le sens où Nathalie Micas tient à avoir son indépendance financière. Donc, il y a une organisation. Vous parlez de matrimoine. C'est quoi le matrimoine ?
C'est vrai que Nathalie Micas vient quand même. Elle était donc la fille unique. Je crois qu'elle a eu un frère qui est mort tout petit. Donc, Nathalie Micas est en fait l'enfant unique de ce couple. Mmh. En plus, elle est souffrante. Donc, ils l'ont encore plus choyée tout. Mais les parents Micas, ils travaillent ensemble hein, déjà. Donc, on n'est pas dans des images de madame à la maison qui regarde les fleurs. Hein. On est toujours sur des gens qui sont dans l'égalité professionnelle et dans l'égalité. De conversation, si je puis dire. Donc, Madame Micas dirige un atelier avec 10 ouvrières qui font des gaines et des étuis. Enfin, donc, Nathalie Micas, je pense, ça lui vient de ça. Elle a aussi le sens pratique de gagner sa vie en ayant un métier, quoi. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle fait toute la gestion de la discussion avec les galeristes, par exemple. Les amis de Rosa Bonheur et de Nathalie Micas, et ça, c'est dans les souvenirs de ma vie, je ne l'ai pas inventé, disent de Nathalie qu'elle était ministre de l'Intérieur. Dans cet endroit, donc c'est super, c'est-à-dire qu'elle administre vraiment. C'est un matrimoine parce que financièrement, économiquement, elles sont liées. Elles gèrent un business qui est de vendre des tableaux, quand même. Nathalie s'occupe des négociations, mais Rosa Bonheur a décidé très tôt. Rosa Bonheur, elle veut son indépendance envers tout le monde, contre tout, envers et contre tout. Et par conséquent, quand les tableaux ont commencé à marcher, elle a très vite décidé de ne plus jamais peindre sur commande. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que, bon, de temps en temps quand même. Mais peindre sur commande. Donc elle a dit, moi je peins ce que je veux, et toi Nathalie, tu vas t'arranger pour les vendre, en résumé. Et ça a marché comme ça. C'est absolument formidable. Et c'est ça le matrimoine, c'est que c'est ce sens financier peut-être qu'il est... comme beaucoup de couples mariés, enfin, qui travaillent
ensemble. Oui, mais alors, aussi ce qu'on découvre, je crois, c'est dans les souvenirs, Nathalie Micas... Elle a le sens pratique très développé. Elle a même le génie de l'invention, puisqu'elle va créer un frein
pour les trains.
Puis ça marche, oui. Et puis comme c'est une femme, et là encore, c'est l'inégalité entre hommes et femmes au 19e siècle, quand c'est une femme, son invention ne va pas être prise en compte, et c'est plus tard un homme qui va récupérer l'invention, en ajoutant un petit détail, mais c'est lui qui déposera le brevet d'invention.
Oui, elle a été très loin dans cette histoire d'Angélie Micas. Elle a fait au fond du jardin des rats, elle a installé des rails, etc. Elle a mis au point ce frein pour qu'il y ait moins d'accidents de chemin de fer, finalement.
Ouais.
C'était très utile.
Est-ce que je peux vous poser une question? Elle ne pouvait pas déposer un brevet
aussi technique à cette époque, et donc c'est tombé aux oubliettes. Mais enfin, c'est décrit dans les souvenirs, cette histoire d'invention. Oui, ce sont des...
Alors c'est passionnant, parce que alors deux visites, deux rencontres quand même, il faut qu'on en parle. La visite à l'improviste de l'impératrice, hein, donc
Eugénie.
Alors là, Nathalie va vite voir Rosa Bonheur, elle dit vite, faut mettre une robe parce que...
Et ça, c'est très intéressant dans les souvenirs de ma vie, c'est que bon, oui, elle avait une permission de travestissement, Nathalie aussi d'ailleurs, pour porter un pantalon parce que le préfet de police devait vous autoriser officiellement à avoir un pantalon, à porter un pantalon, bon d'accord. Mais beaucoup de ces photographies où l'on voit Rosa Bonheur, elle est en robe. Et c'est très intéressant dans Souvenir de ma vie, c'est qu'il y a des longs passages d'elle-même qui expliquent comment elle met soit un pantalon, soit une robe en fonction des circonstances.
Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle revient parce qu'elle a le sens de ce qui est juste. Elle ne fait pas dans la romance, elle ne fait pas dans le... Elle tient à dire, si je me suis habillée en homme, enfin bon, à l'époque, en mettant les pantalons, c'est pour des raisons de commodité. Mais elle dit qu'elle est... Il y a un passage dans ses souvenirs, je sais, que j'ai lu, où elle dit, elle remet un peu les pendules à l'heure en disant, c'est pas forcément, c'est pour des raisons tout à fait pratiques, pour mon travail, pour aller dans les champs aussi, pour faire du cheval. Mais il n'y avait pas, parce qu'il y a eu beaucoup de aussi, il y a comme une fantasmagorie autour de ça. Et elle le sent et elle remet quand même dans ses souvenirs, je trouve. Elle a une vision assez juste, finalement.
Elle n'est pas dans, je pense qu'au Rosabonheur, ne faisait rien par provocation.
Non.
Elle faisait juste comme elle voulait, elle. Donc, elle explique que si elle porte un pantalon, c'est que c'est plus pratique. Elle montait d'ailleurs pas en Amazon, hein, à cheval, ce qui est à l'époque aussi pas très courant.
Et voilà, donc, et deuxième rencontre importante aussi, c'est Buffalo Bill. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Ça, c'est pas tant. Bon, alors elles vont souvent à Nice. D'ailleurs, on les demande l'une et l'autre en mariage, c'est ce que j'ai appris dans son livre de souvenirs. Enfin, elle en parle comme ça, voilà. Alors, Laurent, tu vas peut-être nous lire justement la vision qu'on avait, enfin, des témoignages sur Rosa Bonheur. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que c'est un personnage public, Rosa Bonheur, à l'époque. Hein. Faut bien se remettre dans le bain.
Dans le petit volume qu'il a consacré à Rosa Bonheur, Eugène de Mirecourt écrivait en 1856. La simplicité chez elle a mieux réussi que la finesse chez les autres. Et les efforts de ce pinceau naïf ne déplurent pas à cette grande enfant gâtée qu'on nomme l'opinion. En examinant les tableaux de Mademoiselle Bonheur, la foule se trouva surprise de sentir d'elle-même une impression véritable et sérieuse en face de ces grands bœufs blancs ou roux, à l'œil limpide, aux mufles chargés d'écume. Elle s'émut au spectacle paisible et naturel de ces moutons qui broutent l'herbe, savoureuses des prés ou des montagnes. Elle se sentit prise d'extase devant ces paysages qui respirent un charme si mélancolique, si rêveur, si rempli de parfums champêtres. Peu de temps après, Mazure disait à son tour, « Après les vieux peintres hollandais et mieux que les anciens paysagistes en France, nous avons dans notre temps de très habiles peintres de bétail. Messieurs Bascassa, Coignard, Palizzi, Troyon, une femme surtout, qui porte le talent jusqu'au génie. Mademoiselle Rosa Bonheur, que l'on voit au Luxembourg, le labourage nivernais. Si beaux sont ces bœufs avec leur pelage varié, leurs muscles ressortis, leurs fanons puissants. Il y a en eux tant de ressorts qu'ils semblent légers dans la pesanteur même de leur masse. Haletant, ils souffrent, mais avec quelle énergie, quelle volonté. L'homme qui les guide est beau et représente la puissance humaine, dominant celle de la nature dans ce que celle-ci a de plus intense, la vie et le travail de l'être aimé. Puis il y a tant d'air alentour de l'homme et des bêtes. On sent la grande nature dans ce qu'elle a de plus imposant. Toutefois, on regrette l'entourage naturel qui manque à cette œuvre, d'ailleurs vivante. On cherche la profondeur du ciel et le paysage. Enfin, Émile Cantrel, dans L'Artiste, comparait en ces termes Rosa Bonheur à Georges Sand. Il y a une très intime parenté entre les deux talents. Mademoiselle Rosa Bonheur lit souvent Georges Sand, c'est son auteur de prédilection, et je ne serais pas surpris que Madame Sand eût la même préférence pour les paysages de Rosa Bonheur. Le génie de Georges Sand est surtout un génie paysagiste. Et Rosa Bonheur, dans ses tableaux, fait chanter l'arbre et parler éloquemment la bête, l'herbe et le nuage. Georges Sand et Rosa Bonheur sont deux paysagistes de l'école de Jean-Jacques, deux femmes supérieures que l'Europe nous envie, deux peintres sérieux et convaincu, dont la France aura le droit de se glorifier, deux génies frères. Beaucoup même ont cru voir dans celle des pages de La Mare au Diable, 1846, où les travaux des champs sont décrits en termes pleins de poésie, de sentiments et de couleurs. La source où Rosa Bonheur s'est inspirée avant de peindre son labourage. La chose est possible, sans pourtant qu'il en reste aucune preuve positive. N'est-il pas permis de supposer cependant qu'un même sentiment, l'amour de la nature, exalté un peu à l'époque par tout la littérature romantique, issue de Rousseau, a provoqué, dans des genres différents, une interprétation analogue de cet acte aussi commun qu'il est sublime, le labourage d'un chant.
Merci Laurent. Alors, c'est vrai, Georges Sand et Rosa Bonheur, je voudrais qu'on en parle, Natacha Henry. Est-ce que, voilà, le rapprochement parce que Rosa Bonheur, voilà, je pense aussi à Gargilès pour Georges Sand aussi. Par exemple, quand Rosa Bonheur parle de sa palette, je ne fais pas comme vous, je gratte ma palette avec le couteau, j'y verse ensuite un peu d'essence et alors seulement j'emploie le chiffon. C'est une femme de terrain, une femme d'atelier.
Oui, c'est vrai qu'elle décrit comment elle peint et comment elle prépare ses pinceaux, comment elle les lave, comment elle prépare les couleurs dans son atelier, dans Le souvenir de ma vie. C'est des pages vraiment très intéressantes, presque pédagogiques, pour savoir comment elle faisait à l'époque. Je sais pas très bien, moi, cette comparaison avec Georges Sand. C'est vrai que elles ont en commun l'amour de la nature, oui, l'amour de la vie paysanne, on pourrait peut-être dire ça aussi. Je pense que chez Georges Sand, il y a un peu plus de romantisme, peut-être, peut-être un peu un côté romantico-social que n'a pas vraiment Rosa Bonheur. Je pense que Georges Sand est aussi beaucoup plus consciente de son image. Elle rend public beaucoup plus de choses de sa vie privée, ce qui n'est pas le cas de Rosa Bonheur. Donc je pense que moi, je serais un peu plus modérée, en fait, sur la comparaison entre toutes les deux. Je ne sais pas si elles étaient vraiment amies. Je ne sais même pas si elles se sont rencontrées.
Oui, c'est ça la question. Se sont-elles rencontrées?
Je ne sais pas. Ouais. Les archives le diront peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Cependant, il y a un des moments que monsieur a lu où elle dit, il dit, le critique de l'époque, toute l'Europe nous les envie, etc. C'est vrai que Rosa Bonheur, on ne se rend pas compte maintenant, mais elle était connue par exemple aux États-Unis et en Angleterre et en Écosse. Elle était très bien vendue aux États-Unis. Tout ça parce que quand elle a fait Le marché aux chevaux, qui était une œuvre colossale avec des percherons, ça a été acheté par Cornelius Vanderbilt, le milliardaire américain, qui l'a offert au Metropolitan Museum de New York, et c'est à New York maintenant, vous pouvez même le voir encore aujourd'hui. Et ça fait beaucoup, par exemple, pour l'industrie du percheron français. Du jour au lendemain, les Américains, avec leur ranch et leur écurie, se sont rendus compte qu'il y avait des chevaux français qui valaient le détour. Et les percherons français ont eu la cote aux États-Unis et sont partis par bateau entier. Donc elle était tellement connue aux États-Unis à cette époque qu'on a fait une poupée à son effigie qu'on offrait aux petites filles futurement féministes. C'est comme ça qu'Anna Klumke en a entendu parler pour la première fois, quand elle était petite fille à San Francisco, et que sa maman lui a offert une poupée à l'effigie de Rosa Bonheur en disant « Regarde, c'est une peintre française, puisque la petite Anna Klumke allait devenir peintre aussi ». Et donc, cette réputation qui traverse les frontières marque Anna Klumke. Et quand Anna Klumke est en France pour rencontrer Rosa Bonheur, et Rosa Bonheur est précédée de cette aura. Et c'est pour ça que pour Anna Klumke, ça va être très, très, très important et qu'elle va rester finalement.
Oui, elle reste. Jusqu'à la fin. Elle reste jusqu'à la fin. Elle hésite un peu. Elle reste. Veuillez entrer dans mon sanctuaire, mesdames. C'est quand elle accueille donc Anna avec sa mère, je pense.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une arche de Noé. L'atelier de Rosa Bonheur, il y a tous les animaux de la terre. Puis c'est grand. Il y a plusieurs ateliers. Je pense que c'est à chaque fois, c'est une construction. C'est une femme qui s'est construite et qui construit l'autre, je dirais, Rosa Bonheur.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il a laissé une trace utile, vraiment, pour notre connaissance des femmes du 19e siècle, de la peinture animalière, des races animales, de comment construire sa vie le mieux possible avec ce qu'on a. Ça, pour ça, c'est un grand modèle. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en reparler pour son bicentenaire, effectivement.
Et puis, une femme moderne, elle dénonce le sourd préjugé que les jeunes filles sont exclusivement destinées au mariage. Je ne suis tout à fait scandalisée des entraves qui pèsent sur elles en Europe. Quant à moi, j'ai été assez heureuse pour m'en affranchir. Je le dois au talent dont la Providence m'a gratifiée. Elle reste assez modeste et lucide sur son sens du combat.
Mais ça veut dire que financièrement, j'ai gagné ma vie. J'ai pas été obligée de me mettre sous le joug d'un homme ou d'un mari qui m'aurait fait vivre au quotidien, quoi.
Ouais. D'ailleurs, elle dit, après ma nomination comme officier de la Légion d'honneur, puisque c'est la première femme qui a reçu la Légion d'honneur, je pense. J'ai tenu à reprendre ma place au combat, ainsi que noblesse, talent oblige. Autre phrase encore, au sommet de la gloire, on n'y arrive jamais. quoi qu'on fasse, il reste toujours à l'artiste quelque chose à perfectionner. Et c'est ça qui est très motivant dans cette vie. Parce qu'en fait, elle est humble, elle est dans l'observation de la nature, elle est dans son art, avec des formats quand même très très importants, vous l'avez rappelé.
C'est ça, et c'est pour ça que l'histoire de Buffalo Bill est intéressante, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 1889, donc on est en 1889, on est 10 ans avant que Anna Klumke vienne s'installer avec elle, on est en 1889 et en juin, Nathalie Mikas meurt. Et à ce moment-là, il y a Buffalo Bill qui s'est installé à Neuilly avec son Wild West Show. C'est l'exposition universelle. Il y a les cow-boys, il y a les Indiens, il y a des bisons, il y a des Mustangs, il y a des tas de trucs. C'est l'Amérique à Paris. Et il a construit un immense hippodrome où on va voir le Far West et la diligence et les attaques de cow-boys et tout ce qu'on veut. Et puis, tout le monde y va. Il y a 30 000 spectateurs par jour dans cet endroit-là. Et tout Paris y va, toutes les têtes couronnées, les présidents, tout le monde y va. Sauf Rosa Bonheur, parce qu'elle est en train de pleurer la mort de Nathalie Mikas, avec qui elle vient de passer 50 ans. Donc on comprend bien cette situation. Mais ces galeristes vont finir par dire, écoutez, tout le monde y va. Et puis il y a des bisons. Et là, donc quelques semaines ont passé, et Rosa Bonheur... Son but, c'est de peindre des nouveaux animaux, et elle n'a pas eu l'occasion de peindre des bisons, parce qu'il y en avait un pauvre qui traînait au jardin d'acclimatation, mais c'est quand même pas, hein, des bisons américains. Donc elle va aller au Wild West Show à Neuilly, elle va devenir peintre en résidence là-bas, grâce à Buffalo Bill qui va l'accueillir, et c'est comme ça qu'elle va se renouveler encore avec des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant, de peindre, dessiner des bisons, les chevaux de rodéo de Buffalo Bill. Et puis, peu à peu, elle va rencontrer aussi les Sioux Lakota, qui font partie de la troupe. Et elle va, peu à peu, aussi essayer de demander si elle peut faire leur portrait. Je crois que Rosa Bonheur a une conscience du temps qui passe, notamment en voyant les Amérindiens, qui ne seront pas toujours comme ça. On les a virés de partout. Ils vivent comme des misérables dans des réserves. On est en train de les américaniser au sens blanc et on leur coupe les tresses, etc., etc. Ils perdent leur culture d'origine. Et elle veut les rendre... visible pour ce qu'ils sont encore, grâce finalement à Buffalo Bill qui continue à les faire travailler sous cette forme-là. Bon, il y a du pour et du contre, mais enfin, au moins on voit des Sioux Lakota comme étaient leurs ancêtres Sioux Lakota. Et donc elle va faire aussi les portraits de Sioux Lakota pendant qu'ils y sont. Et tout ça, ça va la renouveler. Mais c'est parce que, comme vous dites, elle cherche toujours à faire mieux, à faire le truc d'après, à faire le truc qu'elle n'a pas encore fait. Et puis bon, elle fera finalement le portrait de Buffalo Bill aussi,
qui
utilisera pour sa communication.
Et ces portraits de Buffalo Bill, cette période-là va marquer l'histoire, et c'est très connu aux États-Unis. J'ai l'impression que la postérité de Rosa Bonheur, elle est plutôt anglo-saxonne.
Oui, c'est vrai. Elle est plutôt anglo-saxonne, plutôt aux États-Unis. Et puis en Angleterre, vous allez dans n'importe quel musée de ville moyenne ou de grande ville, même en Angleterre, il y a toujours un Rosa Bonheur qui est caché dans un coin. Il y a des très beaux lions au musée de Hull. Il y a au moins 3 tableaux dans les musées, au musée de Liverpool. Il y a des choses en Écosse. Les Anglais, les Écossais, ont acheté massivement du Rosa Bonheur. Ouais. Et maintenant, si vous pourriez faire, ça serait assez marrant de faire ça, le tour d'Angleterre et d'Écosse de musée en musée à la recherche des Rosa Bonheur. Ça serait un truc génial, parce que moi, je suis à moitié britannique, donc j'y vais pas mal. Et c'est vrai que j'en repère à chaque fois. C'est assez super.
Ça. Ouais.
Et peut-être aux États-Unis, on pourrait faire la même chose. Bien qu'aux États-Unis, c'est un peu différent, parce que c'est beaucoup resté chez des collectionneurs privés. Donc il doit y avoir des super tableaux de bisons signés Rosa Bonheur chez des collectionneurs privés américains.
Ouais, ça j'en sens
ça, il faut faire une enquête.
Et alors à la fin de sa vie, donc on peut pas tout raconter, je vais laisser aux auditeurs le soin de vous lire et de lire aussi les souvenirs de Rosa Bonheur. Il y a une scène savoureuse où à un moment donné, donc je crois que c'est Anna qui lui tresse une couronne de laurier. Elle veut être enterrée, je crois, avec cette fameuse couronne de laurier. Elle soigne vraiment ses dernières volontés. Hein. On sent que c'est une femme qui a la conscience de la postérité et de l'après. Voilà, elle est très soucieuse de ça. Et ses derniers mots, je crois, c'est heureuse, heureuse. Ce qui quand même correspond à son nom, à son patronyme.
C'est vrai que le fait qu'Anna Klumke soit américaine, ça a beaucoup compté dans cette histoire. Parce que... Rosa Bonheur a beaucoup d'admiration pour les Américaines féministes. Mmh. Il y a des coins aux États-Unis où les femmes ont déjà le droit de vote à cette époque-là. En France, comme vous avez dit tout à l'heure, on a attendu 1944 quand même. Bon, donc bon, alors on dira qu'aux États-Unis c'était les contrées de desperados qui voulaient faire venir les femmes et on leur filait le droit de vote pour qu'elles viennent quand même, alors que c'était plein de saloons et de mauvais garçons. Bon, mais en tout cas oui, et Buffalo Bill d'ailleurs était un démocrate, ami de ces féministes connus, ce qu'on ne sait pas parce qu'on le prend pour un vulgaire chasseur de bisons. Mais c'est une bonne rencontre pour ça. Je pense que l'admiration de Rosa Bonheur pour les États-Unis c'est très important, et c'est pour ça qu'elle confie à Anna Klumke le soin d'écrire ce livre. Parce qu'elle pense que Anna Klumke a la conscience féministe nécessaire. Enfin, féministe, c'est-à-dire, vous comprenez, vous les Américaines, qu'on n'est pas obligé de se marier, que le mariage c'est une mauvaise idée pour les femmes. Elle lui dit des choses comme ça, qui montrent bien que il faut au moins quelqu'un comme Anna Klumke pour la comprendre.
Je crois que c'est Anna qui lui dit, je serai non seulement l'amie et l'élève de la grande artiste, mais l'interprète. Ça, c'est plus fin de ses idées. Donc c'est vraiment en plus elle vient quand même, elle est américaine, donc voilà, elle interprète de ses idées. Et ce à quoi répond une phrase de Rosa Bonheur, si je vous ai choisi pour être mon interprète auprès de la postérité, c'est que vous êtes une femme et que je ne puis m'ouvrir à vous avec une confiance plus entière. Mais elle a bien conscience du message qu'elle veut laisser, qu'elle nous laisse à nous.
Elle en fera d'ailleurs sa légataire universelle. Hein. Ouais. Elles sont enterrées ensemble. Ensuite, Nathalie Mikas d'abord, ensuite Rosa Bonheur, ensuite Anna Klumke, toutes les trois dans le même caveau au Père Lachaise. C'est un exemple de quelqu'un qui s'est très bien entouré, en fait, aussi.
Qui s'est très bien entouré.
Et effectivement, de dire, bon, je voulais que ce soit Nathalie, mais maintenant elle n'est plus là, donc ce sera vous, s'il vous plaît, Anna Klumke, pour écrire mon histoire. C'est extraordinaire, comme vous dites, c'est la conscience d'être une personnalité importante. Il y aura une postérité, les gens vont écrire des choses sur moi. Donc moi, je fais ces souvenirs, comme ça, c'est posé une fois pour toutes. Et c'est protéger sa postérité d'écrire un livre.
Laurent, tu veux lire quelque chose ?
Non, pas le lire, mais je suis en train de découvrir en direct ce livre qui est assez imposant, plus de 480 pages. Et à la fin, il y a deux documents que j'ai eu le temps de parcourir très très vite, qui sont très émouvants. Le testament du 9 novembre 1898 et la lettre testament du 28 novembre de cette même année. Et là, on a le bilan d'une vie qui est en quelques feuillets seulement. C'est condensé de façon assez extraordinaire, je trouve, la concision, la valeur de chaque mot, l'agencement des idées. C'est extraordinaire, c'est passionnant, c'est la fin du livre. Et j'ai trouvé, en le découvrant en direct, là, dans mon silence, que c'était un document exceptionnel.
Bon, on va laisser aux auditeurs le soin de le lire, Laurent. Mais, et le lieu, alors, qu'est-ce qui est devenu après l'atelier de Rosa Bonheur? Comment ça s'est passé, tout
ça? La chambre dont vous parliez tout à l'heure, elle est maintenant une chambre d'hôte, quoi. Vous pouvez, on peut pas la visiter, en fait. C'est comme un hôtel, en fait, maintenant.
On peut visiter quand même.
Oui, on peut visiter l'atelier. Oui.
On peut visiter l'atelier.
Je crois qu'il faut réserver parce que c'est quand même un lieu qui fait beaucoup d'événementiel. Donc, faut réserver pour aller voir l'atelier. Mais l'atelier existe tel qu'il était. Oui, bien sûr, c'est très intéressant.
Quel serait un petit peu votre conseil pour découvrir Rosa Bonheur? On commence, bien sûr, on lit votre livre, on lit les souvenirs, mais quelqu'un qui, on va sur les lieux, visiter son atelier.
Je crois qu'il faut garder les yeux ouverts dans tous les musées où j'ai vu deux petits tableaux de Rosa Bonheur au musée d'Evreux, par exemple. Je crois qu'il faut toujours, comme l'œuvre de Rosa Bonheur est très répartie partout,
oui,
dispersée partout. C'est assez sympa d'aller dans tous les musées de France et de Navarre et d'Angleterre et des États-Unis. On se demandait, est-ce qu'il n'y a pas Rosa Bonheur qui traîne par là. Ça, c'est vraiment une activité. Voilà. Oui, la forêt de Fontainebleau, très importante pour son inspiration. L'atelier 6 est ouvert. Et puis, même vous allez sur Internet, vous tapez Rosa Bonheur pour voir les tableaux. Il faut voir les tableaux, en fait. Franchement, c'est ça qui compte le plus.
Oui, mais on fait une balade en forêt, c'est bien aussi.
Ah oui, c'est toujours bien, Fontainebleau.
C'est pas mal non plus. Puis d'avoir l'atelier, enfin de voir les expos. Alors, il y a deux expos, alors ça, je le dis, je peux les annoncer tout de suite. De toute façon, il y a une exposition, donc Rosa Bonheur, la grande expo, enfin, il y a deux grandes expos actuellement, donc exposition Rosa Bonheur, donc au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, donc du 18 mai, c'est pas actuellement, ça va venir, du 18 mai au 18 septembre. Et à partir du 17 octobre prochain, ça sera au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier 2023. Voilà.
On peut aussi mentionner une exposition qui va avoir lieu à Salers, parce que Rosa Bonheur aimait beaucoup le Cantal, elle aime beaucoup peindre dans le Cantal, elle séjournait là-bas du 23 au 30 juillet à Salers, exposition gratuite, ouverte à toutes et tous. Donc ouais, ça, c'est chouette si vous passez dans le Cantal. Il y a aussi le site de l'association des Amis de Rosa Bonheur qui fait un travail colossal depuis au moins 15 ans.
Ça, c'est important.
Ouais, sur le travail de Rosa Bonheur. Il va y avoir une exposition au château de Fontainebleau en juin. À propos de Rosa Bonheur, la nature, etc. Donc, il y a beaucoup de choses cette année, oui.
Il y a beaucoup à découvrir. Oui. Il faut dire que Rosa Bonheur, donc, elle est décédée, je crois, en 1899. Enfin, juste 1898 ou de 99.
99, oui.
Juste avant le 20e siècle. Enfin, oui, le 20e
oui,
siècle.
Oui, c'est vraiment tout le 20e, tout le 19e siècle.
C'est vraiment la femme du 19e siècle. Et elle meurt parce qu'elle a fait une promenade en forêt, je crois, une balade. Meurt d'une congestion pulmonaire après une promenade en forêt. Et une vie bien rempli, et ces fameuses couronnes de laurier que lui avait tressé, je crois, Anna, il y avait marqué 1922.
Et oui, parce qu'elle lui disait, vous allez vivre éternellement jusqu'à 100 ans, et bien sûr.
Eh ben, lui, en tous les cas, éternellement, grâce à l'écriture et à son œuvre. Merci à vous, Natacha Henry.
Merci à vous deux.
Pour donc ce livre, alors ceux qui ont des ados, vous sentez une âme d'ado, c'est très bien. Vous lisez Rosa Bonheur, l'audacieuse, chez Albin Michel, pour jeunesse. Et puis, il y a ce fameux best-of, là, vous avez tout. Vous avez même le cahier photo, Souvenirs de ma vie, Rosa Bonheur et Anna Klumpke, aux éditions Phébus. Florence, tu avais une question, non ?
Oui, j'avais une question à l'invité. Déjà, on va finir avec le nocturne numéro 13 de Chopin, puisque vous avez parlé de George Sand. Mais vous avez aussi parlé de 1870, et un an plus tard, il y a eu la Commune de Paris. À l'atelier, j'ai posé la question, elle m'a répondu, celle qui faisait visiter, qu'elle ne savait pas. Quelle a été la position ou le sentiment de Rosa Bonheur vis-à-vis de la Commune de Paris? Si elle était amie de George Sand, George Sand a craché dessus.
On n'aura pas le temps. D'abord, Rosa Bonheur, après ce que j'ai compris, n'était pas amie de George Sand.
Oui, enfin, si elle lisait George Sand, est-ce qu'elle a pris position par rapport à la Commune?
Elle a pris position dans sa vie quotidienne comme témoin et pour aider qui elle pouvait aider. Mais politiquement, Rosa Bonheur, elle a été très amie avec l'impératrice Eugénie et ensuite elle a été très amie avec le président Sadi Carnot. Donc, c'est pas quelqu'un de très politisé.
Voilà, affaire à suivre. Peut-être on fera peut-être une émission, une autre émission sur Rosa Bonheur et la Commune, pourquoi pas. Ouais. Voilà, merci Florence, merci Laurent pour ta lecture. Et merci à vous, Natacha Henry.
Merci beaucoup.
Et puis à tous nos auditeurs. Et puis je les encourage à aller visiter les ateliers, y compris les ateliers d'écriture, des fois. C'est pas mal du tout. À la fois prochaine. Merci à vous tous.
c'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras.